paraît vide, sans son désordre, sans sa voix. Ça me semble encore impossible, pourtant il y a 2 ans déjà. Ma mère a rangé tous ses livres et ses outils de jardinier, tous ces objets qu'il faisait vivre, qui eux aussi vont s'ennuyer. Il ne parlait pas de la guerre, pourtant mon héros, c'était lui. J'étais si fière qu'il soit mon père, fière de m'appeler comme lui. Ses colères étaient des tempêtes lorsque j'avais désobéi. Et puis il pleurait en cachette parce que j'avais un premier prix. C'était plus que de la tendresse qu'il avait pour tous nos rosiers. Il peignait avec maladresse. C'est toujours moi qui posais. Je sais bien que je lui ressemble. Je suis têtue comme il l'était. J'ai ses yeux et ses côtés tendres. Oui, j'aime tout ce qu'il aimait. Et mon frère, et tous mes souvenirs d'enfant, c'était mon ami et mon père. Il me manque bien souvent.
Toujours sur le réseau FM+, avec cette fois-ci donc la deuxième virgule musicale, Sylvie Vartan.
Voilà.
Alors, c'est tout le contraire de la première virgule.
Ah, absolument, c'est l'opposé. La réalité, elle est bifrance, c'est-à-dire elle a 2 visages, hein, comme Janus bifrance, hein, en latin. Donc, il y a effectivement ce côté archétypal du père qui incarne l'instance protectrice. Vous savez, cela existe même dans le cas des enfants battus. C'est pour cela que le problème est très difficile à régler, parce que déplacer l'enfant, l'enlever à son milieu familial, c'est peut-être nécessaire, vital pour lui, mais d'un autre côté, l'enfant continue d'aimer cet archétype parental, si vous voulez, même si le père réel est un monstre, par exemple, vous voyez. Donc c'est très difficile, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Redouane, mais c'est dédaléen et labyrinthique, cette question, hein. L'enfant continue d'aimer un archétype même quand il est battu, vous voyez. C'est un problème. Alors les assistantes sociales, tout ça, les juges ont des choix draconiens, non, vous ne croyez pas?
Oui, parce que c'est une question de fidélité qui est inscrite dans l'inconscient, hein, comme vous disiez, c'est le sang de mon sang, c'est... Il y a... La biologie joue un aspect assez particulier, mais même voilà, je pense que se joue dans l'inconscient une relation de fidélité, et on ne peut pas rompre cette fidélité au père et à la mère, oui. Même si ils ne sont pas
au niveau de l'attente, mais ils ne sont pas au niveau de l'attente. Ils incarnent quand même ces archétypes structurants. J'ai dit, ce sont les cariatides qui soutiennent l'enfant balcon. Hein, l'enfant étant considéré comme un balcon. Voilà. Alors. Bon, pour continuer la réflexion, je dirais que nos enfants sont ceux à qui nous transmettons un souffle, hein, sont nos enfants spirituels. Nous leur communiquons, nous leur confions le souffle de vie qui nous habite, quand ils nous habitent, parce que des fois ils ne nous habitent pas. Je parlais des gens qui sont déprimés, dépourvus d'esprit, enfin que l'esprit a abandonné, hein, voilà. Alors voyez par exemple la fin de Jésus dans l'évangile selon Jean. Cette fin de Jésus, bon nous venons de sortir de la semaine sainte, hein, de la passion de Jésus, de sa mort et de sa résurrection, mais dans l'évangile selon Jean, ce n'est pas d'une mort qu'il s'agit, pas du tout, hein. C'est un passage de relais, une transmission, un dépôt que Jésus nous laisse. Jean chapitre 19 verset 30, Jésus inclinant la tête transmit l'esprit. Dans le grec initial c'est paredoken to pneuma et dans le latin de la Vulgate c'est tradidit spiritum. Il transmit l'esprit. Hein. C'est un dépôt, une transmission, une tradition. En grec paradosis, la transmission. En latin traditio qui a donné tradition. Hein. Alors, ce n'est pas une mort véritable, hein, au moins dans l'évangile selon Jean. Il a soufflé sur nous en quelque sorte. Hein. Alors c'est vrai que si on prend ça dans un sens, si vous voulez, littéral, il a rendu son dernier souffle. Mais là il meurt, il expire si vous voulez. Hein. Bon, mais je suis persuadé que paredoken to pneuma peut être traduit autrement. Alors, pourquoi est-il obligatoire que les destinataires, finalement, soient nos enfants par le sang? Je n'en suis pas sûr, vous voyez. Alors, Monterland disait qu'il ne voulait pas être le père biologique d'un enfant de qui il pourrait rougir plus tard, une fois qu'il aurait grandi, que ce dernier aurait grandi et qu'il ait, par exemple, mal tourné, auquel il pourrait rougir plus tard de serrer la main. Hein. Alors, bien sûr, si ce peut être à nos enfants biologiques que nous faisons cette transmission du souffle ou de la vie, ce sera tant mieux, et il faut le souhaiter. Sinon, comme je l'ai dit pour l'amour que nous devons à nos parents, tant pis. Hein. Alors, peut-être que ma formule est abrupte, hein. Moi j'ai toujours considéré que l'enfant est celui à qui on transmet quelque chose. Hein. Vous voyez, alors le professeur transmet...
Mais Monterland, c'est le contraire du père prodigue. Hein.
Absolument, ah, oui, je suis d'accord avec vous.
Et je trouve que c'est assez narcissique.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, Monterland est très cynique, très amer souvent dans ses constatations. Hein. Par exemple, sur l'esprit d'enfance, il le critique, par exemple, dans La ville dont le prince est un enfant, vous voyez, à partir d'un verset biblique. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a une violence, par exemple, dans ses choix idéologiques. Alors, je pense, vous voyez, Redouane, de plus en plus que la vraie filiation et l'authentique transmission de la vie passent non pas par le sang et par un soi-disant lien ou amour naturel qui nous imposerait ce sang, mais par ce qui est au contraire la marque d'un amour véritable, déterminé et mûri. En l'occurrence, par le choix libre et volontaire, dilectio, electio en latin, de s'intéresser à l'enfant, c'est-à-dire symboliquement de l'adopter. Hein. Et il me semble que le vrai père n'est pas le géniteur biologique, mais celui qui reconnaît l'enfant pour sien en décidant de l'élever, hein. Souscipere en latin, de l'élever dans ses bras, hein, bon, c'est-à-dire de l'éduquer, et au sens étymologique alors d'éduquer, éduquere, de le faire grandir. Hein, voilà, et c'est d'une adoption qu'il s'agit. Alors parfois c'est le géniteur lui-même qui adopte son enfant, le père par la nature, mais parfois ce n'est pas le cas.
Mais dans tous les cas, Michel, j'ai toujours eu le sentiment en ayant mes enfants, que même étant le géniteur, il m'a fallu les adopter. Me faire adopter aussi par eux, parce que tout le long de la gestation, ça se passe loi. C'est-à-dire, on est en tant que père, absolument, on n'est pas affecté, sinon de savoir son épouse changer de forme. Mais, oui, mais en soi, il n'y a rien qui se passe. C'est au moment de la naissance et qu'on prend cet enfant dans ses bras qu'on est dans une attitude d'adoption de part et d'autre.
Voilà. Et alors, Redouane, j'enchaîne là-dessus. Vous me donnez l'idée de ce que je vais dire. C'est l'admirable leçon qu'il faut tirer de l'épisode évangélique qui concerne la naissance virginale de Jésus. Puisque Joseph, apprenant que Marie est enceinte, il est tenté de la répudier. Mais finalement, après la visite d'un ange dans son sommeil, qui est la métaphore d'une profonde intuition surgie de son inconscient, eh bien Joseph décide de garder Marie auprès de lui et d'adopter son enfant, de lui donner un nom. C'est Matthieu chapitre 1, verset 25. Donc donner un nom à l'enfant, c'est important. C'est le reconnaître aux yeux du monde. Et de la sorte, il ne sera plus un bâtard, c'est-à-dire le simple fils de Marie, dont la mention subsiste encore dans le plus ancien en date de rédaction des évangiles canoniques. C'est Marc chapitre 6, verset 3, hein, le fils de Marie. Je signale par parenthèse que c'est ainsi que le Coran appelle Jésus, hein, le fils de Marie. Bon. Alors, il y a eu une rumeur malveillante qui a couru dans les milieux juifs de l'époque, qui était hostile au christianisme naissant. Cette rumeur disait que Jésus était le fils adultérin d'une liaison entre Marie et un centurion romain nommé Panther ou Pantera, si vous voulez. Hein. Bon, ça a été vraiment une calomnie ou une rumeur fielleuse qui a été répandue. Hein. Et contre cette rumeur, la naissance virginale a été défendue dans les milieux chrétiens, vous voyez. Donc, adopter. Vous avez raison, Redouane. Lorsque le mari, tout ce qu'il voit pendant les mois de la gestation humaine, c'est le changement physique de son épouse. Mais quand son épouse lui dit qu'elle attend un enfant et que cet enfant est de lui, premièrement, le mari est obligé de lui faire confiance. C'est un acte de confiance. Hein. Il n'a aucun moyen. Alors si, je sais bien qu'il y a maintenant les tests génétiques. Mais ces tests génétiques, à mon avis, c'est ce que j'appellerais la barbarie scientifique. Hein. Parce que à faire des tests génétiques, eh bien, vous seriez surpris, Redouane, j'ai lu ça dans la presse, hein, du pourcentage des enfants qui ne sont pas du père. Hein. Bon. Donc, il y en a entre 5 et 10%, vous voyez, dans ce qu'on nous dit. Donc, et au point que parfois, après les divorces, certains maris refusent, ou ex-maris refusent, justement, de continuer de payer une pension alimentaire pour un enfant dont il a été prouvé par les tests génétiques qu'il n'était pas de lui. Hein. Parfois, certains remboursent, demandent le remboursement du trop perçu des pensions alimentaires. Donc, ces tests génétiques sont, à mon avis, une barbarie anthropologique. Hein. Voilà, alors premièrement, acte de confiance. J'attends un enfant, bon, je te fais confiance, il est de toi. Et deuxièmement, alors le vrai père, comme vous le disiez très justement, Redouane, c'est celui qui décide d'accepter son enfant, hein, et de l'adopter. Hein, parce que, bon, tant que l'enfant n'est pas adopté, tant qu'on ne lui a, on n'a pas décidé de lui transmettre quelque chose, eh bien, on n'est pas le vrai père. Et une belle réécriture du texte de Matthieu, hein, se trouve dans sur la naissance de Jésus, se trouve dans la fameuse trilogie théâtrale de Marcel Pagnol, que tout le monde connaît. Lorsque Marius, qui a couru les mers, revient au port et veut récupérer son enfant, son père César lui dit que cet enfant n'est pas à lui, mais à Panis, qui entre-temps a épousé Fanny et l'a relevé aux yeux du monde, puis a adopté l'enfant qu'elle portait. Alors il y a un adage juridique qui dit très bien chez nous, « Ist pater est quem nuptiae demonstrant », c'est-à-dire « celui-là est le père que démontre le mariage », et cela fonde toute la culture humaine contre les prétendus liens et lois de la nature, vous voyez. Donc Marius n'a aucun droit sur cet enfant, puisque Panis a évité qu'il ne devienne un bâtard. Et quand, c'est-à-dire quelqu'un dont le nom aurait été inconnu. Et quand Marius demande de façon impertinente si le père est celui qui donne la vie ou celui qui paie les biberons, César répond la belle phrase « Le père, c'est celui qui aime ». quant à donner la vie, dit César, c'est à la portée de tout le monde. Il suffit pour cela de quelques secondes et souvent d'inconscience. César dit les chiens aussi donnent la vie, vous voyez. Donc, en fait, il ne lui a pas donné la vie, Marius. C'est lui qui lui a prise, qui l'a prise, vous voyez. Hein, bon. Mais au contraire, adopter un enfant, le reconnaître pour sien, s'en occuper pendant de longues années, c'est exactement ce que vous disiez, Redouane. Hein, c'est lui transmettre tout ce que l'on sait. C'est bien ça que vous vouliez dire.
Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait.
Voilà. Donc, c'est tout autre chose. Hein. Donc, en fait, César devrait avoir pour Marius une partialité, puisque c'est son père. Mais non, il lui dit que le déterminisme n'est rien, que c'est l'amour actif et choisissant, que ce soit agapé ou que ce soit dilectio, qui est tout. Et la vraie famille, c'est la famille adoptive, celle qui adopte d'abord et que l'on adopte ensuite soi-même par reconnaissance d'avoir été adopté. Donc nous allons entendre maintenant la dernière virgule musicale, une belle chanson de Daniel Guichard qui s'appelle « Mon vieux ».
Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux. Mon vieux, il y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut. Mon vieux, l'été, on allait voir la mer. Tu vois, c'était pas la misère, c'était pas non plus le paradis. Eh ouais, tant pis. Dans son vieux par-dessus râpé, il a pris pendant des années le même auteur.
Voilà, alors le tragique, effectivement, c'est que l'on reconnaît l'importance du père et son rôle archétypal que beaucoup plus tard, quand il est mort, hélas. Belle chanson.
Merci Michel. On arrive là vraiment, on court après le temps. Le chronos nous a manqué, mais on se termine avec effectivement cette très belle chanson qui me rappelle moi de beaux, beaux souvenirs. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même longueur d'onde. Et entre-temps, portez-vous bien.
Au revoir à tous.
Mon vieux, dans son vieux par-dessus râpé. Les jours de paye, quand il rentrait, on l'entendait gueuler un peu. Mon vieux, nous, on connaissait la chanson, tout qui partait, bourgeois, patron, la gauche, la droite, même le bon vieux, avec mon vieux. Chez nous, il n'y avait pas la télé, c'est dehors que j'allais chercher. Pendant quelques heures, l'évasion. Je sais, c'est con. Dire que j'ai passé des années à côté de lui sans le regarder. On a à peine ouvert les yeux, nous deux. J'aurais pu, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin. Ça l'aurait peut-être rendu heureux. Mon vieux, mais quand on a juste 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour y loger toutes ces choses-là. Tu vois, maintenant qu'il est loin d'ici, en pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi, papa.